Retrouvez-nous sur radiojudaïca.be.
Les rediffusions de Radio Judaïca.
Découverte. Aviva Belef en votre compagnie, avec rien que de bonnes nouvelles en provenant d'Israël et du monde juif, mais pas seulement de bonnes nouvelles, également de la bonne musique et des invités. Et c'est tout de suite. Bonjour et shalom à tous, et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission Découverte. Un menu très copieux aujourd'hui, alors de quoi allons-nous parler? De l'histoire méconnue des Juifs réfugiés à Shanghai durant la Shoah. Également des Juifs du Guatemala, des Juifs de Chypre, des Juifs d'Afrique du Sud. Et au pays d'Abraham et du Talmud, bien sûr, des Juifs d'Irak. Sachez également que le Maroc participera au Salon international du tourisme à Tel Aviv, et ce sera pour le mois de juin. Je vous parlerai également des descendants des Mahan devenus célèbres, le crypto-judaïsme commença 3 siècles avant l'expulsion des Juifs d'Espagne, et déjà c'est sous l'islam, suite aux invasions des tribus berbères islamisées et fanatiques, que les Almohades imposèrent au XIIe siècle en Afrique du Nord et en Espagne aux Juifs le choix entre la conversion à l'islam ou la mort. Plein feu sur Shlomo Hillel, l'homme qui a aidé 120 000 juifs à fuir l'Irak. Il est décédé récemment en Israël, et on parlera également littérature avec un livre, Une maison sur l'eau, paru aux éditions Albin Michel, et l'écrivaine c'est Emouna Elon. Voilà, mais avant de développer tous ces titres, bien sûr, je vous propose un petit peu de musique.
השדה שאספנו אז אור הארץ נושאת יבולה ואור יפים הם מלילות בכנן תרם השמש עולה עוד רכבת חוצה שם פרדס ירוק חסידה עוד רוגעת מעל ועוד נוסע הערפל בעמק בין הסליחה והתם ועוד נשמע אם בלבבות אוהב לו סדר ישן ומחור וגם אחורה ההיא עם ההן תולה עוד עולה תולה עוד עולה וגם אחורה ההיא עם ההן שירה ומלא ליבי ועולם שעזבנו אז אור הארץ נושאת יבולה ואור יפים הם מלילות בבנן דרם השמש עבר
C'était bien sûr Avi Toledano avec Aura. Alors commençons cette émission par vous parler des Juifs d'Afrique du Sud, une communauté méconnue. En 1820, lorsque les premiers Juifs lituaniens arrivent dans ce qui sera plus tard l'Afrique du Sud, personne ne sait encore rien de toutes les richesses minières que recèle le sous-sol de ce pays. Ce n'est donc pas l'attrait du lucre qui les a conduits là-bas. L'Afrique du Sud, ils en ont bien entendu, entendu parler par quelques-uns de leurs corrélégionnaires qui se sont engagés dans la compagnie hollandaise des Indes orientales. Quand ils reviennent au pays, ils leur disent que là-bas, il y a tout à faire et que l'on peut pratiquer librement sa religion. Ce discours trouve un écho dans les communautés de Vilna et de Kovno. Les plus courageux comprennent qu'aller en Afrique du Sud, c'est la possibilité de fuir un avenir de misère. Et bien sûr, l'antisémitisme l'attend dans cette région du nord de l'Europe. Mais il y a un problème. Les Hollandais, qui font alors la loi dans cette région de l'Afrique, sont farouchement calvinistes. Ils n'acceptent que des immigrants de religion protestante. Finalement, en 1814, quand la colonie passe sous l'autorité du Royaume-Uni, les Anglais contraignent les Hollandais de souche, les bourgs comme on les appelle, à proclamer la liberté religieuse. On est alors en 1820, c'est à partir de cette date que les Juifs de Lituanie vont arriver en nombre significatif. Une vingtaine d'années plus tard, comme la communauté est devenue suffisamment nombreuse, une première synagogue s'ouvre au Cap, la Garden School. Les Juifs commencent à prendre place dans la société civile. Certains d'entre eux, comme Julius Bosenthal ou encore Shaul Salomon, deviennent même députés. Je vous l'ai dit en titre, le Maroc participera au Salon international du tourisme à Tel Aviv au mois de juin. Et lors de ce rendez-vous, hommes d'affaires, hôteliers, compagnies aériennes et tous les professionnels de l'industrie du voyage se réuniront pour négocier différents contrats dans le domaine touristique. Des centaines d'exposants issus d'une cinquantaine de pays différents devraient participer à cette 27e édition, dont des représentants de Dubaï, d'Ouzbékistan, de Slovénie, du Portugal, des Philippines, de Chypre, et même de la République tchèque. Ce salon a débuté en mars de manière virtuelle en raison de la pandémie de Corona, ouvrant un portail à près de 30 000 professionnels, leur permettant d'engager de premières relations commerciales qui se concrétiseront lors de leur rencontre à Tel Aviv par une poignée de main. C'est ce qu'ont indiqué en tout cas les organisateurs sur leur site internet. En janvier dernier, Israël et le Maroc avaient déjà signé un accord pour mettre en place notamment des vols directs entre les pays suite à la reprise officielle des relations conclues un mois plus tôt. Le Maroc, je vous le rappelle, est le quatrième pays arabe à avoir annoncé l'année dernière une normalisation de ses relations avec Israël après les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Soudan. Shlomo Hillel, l'homme qui a aidé 120 000 juifs à fuir l'Irak, est décédé en Israël. Shlomo Hillel n'avait que 23 ans lorsque la Haganah, une organisation paramilitaire dans ce qui était alors la Palestine sous contrôle britannique, l'a envoyé sous couverture en Irak. Les Juifs y vivaient depuis des siècles, pour la plupart en harmonie avec leurs voisins, mais le nationalisme arabe croissant et le sentiment antisioniste, y compris un pogrom de 1941 au cours duquel plusieurs centaines de Juifs ont été assassinés, rendaient leur situation tout à fait précaire. Shlomo Hillel, déguisé en arabe, était là pour préparer le terrain à la migration en enseignant l'hébreu et en suscitant le sentiment pro-sioniste. Mais il a fait beaucoup plus et a mis au point de nombreuses filières d'évasion par terre et par les airs pour aider les juifs irakiens à se rendre en Israël en utilisant pots de vin, faux visas et des réseaux de passeurs. Cela s'est passé avant 1948 et l'indépendance, mais c'est surtout en 1950 quand un nouveau gouvernement en Irak a adopté une loi permettant aux Juifs d'émigrer pendant un an, que Shlomo Hillel a vu l'occasion de faire sortir des dizaines de milliers de Juifs du pays. Il s'est rendu une nouvelle fois à Bagdad, cette fois déguisé en représentant de compagnie américaine de charter appelée Near East Air Transport. La compagnie, détenue par un Américain pro-israélien, était réelle, bien qu'elle ait reçu une grande partie de son financement du Mossad. Malgré de très sévères restrictions, ils ne pouvaient prendre qu'une valise chacun et une petite quantité d'argent et d'objets de valeur, environ 90 000 Juifs se sont inscrits pour émigrer au cours des deux premiers mois. En 1952, environ 124 000 personnes avaient émigré en Israël par 950 vols dans le cadre de ce que les médias ont appelé l'opération Ezra et Néhémie, d'après les prophètes de l'Ancien Testament qui avaient conduit les Juifs hors de Babylone. Quelques milliers seulement sont restés sur place et en 2008, il restait moins de 10 juifs en Irak. Bien que Shlomo Hillel ait été plus tard loué pour son travail, en 1988, il a reçu le prix Israël, la plus haute récompense civile du pays. Il est resté très modeste quant à sa place dans l'histoire. « J'ai eu la chance d'être au bon endroit au bon moment », il déclarait dans une interview en 2006. Il est décédé le 8 février. Chez lui, à Ranana, il avait 97 ans. Sa mort a été confirmée par son fils Harry, qui n'a en tout cas pas précisé la raison de son décès.
Critique ma vie, mais on aime ma compagnie. À tout instant, mon cœur s'attache, mon cœur joue cache-cache. Même quand je n'ai pas un dollar, je chante et j'oublie mon cafard. On m'a surnommé l'Oriental, car moi je suis sentimental. Chanson triste ou chanson gaie, moi je chante ce qu'il me plaît. C'est la musique qui m'affole, musique orientale ou espagnole. La chanson c'est comme l'amour, ça fait rêver la nuit. Ma surnommé l'Oriental, tellement je suis sentimental. Et l'on m'appelle l'Oriental, le brun haut, regard fatal. Et l'on m'appelle l'Oriental, car moi je suis sentimental. Et pourtant je ne fais pas mal. On m'a surnommé l'Oriental.
Éclairage à présent sur l'histoire quelquefois méconnue des Juifs réfugiés à Shanghai pendant la Shoah. Le musée des réfugiés juifs à Shanghai, rénové, rouvre ses portes. Ce musée souligne l'entente entre les communautés juives et chinoises, confrontées à un même ennemi, l'axe Berlin-Tokyo, et à l'absence d'antisémitisme dans l'histoire de la Chine. Ils ont sauvé 20 000 juifs et sans cela, je ne serais pas là aujourd'hui pour en parler. C'est ce que raconte Kurt Wick, un octogénaire qui a survécu à la Seconde Guerre mondiale en se réfugiant avec ses parents à Shanghai. J'aurais fini en cendres à Auschwitz comme une partie de ma famille, ajoute le vieil homme, qui a consacré les dernières décennies à raconter comment la métropole chinoise est devenue une terre d'asile pour les juifs fuyant la folie meurtrière d'Hitler. En général, les gens n'en ont jamais entendu parler et pourtant on devrait le savoir parce que c'est le seul endroit au monde dont les portes étaient ouvertes en 1939 pour sauver les juifs. Il y a même beaucoup de juifs qui n'en savent rien, a-t-il regretté. Il y a quelques jours était célébrée la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de la Shoah, jour anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau, le 27 janvier 1945. Des parents de M. Kurt Wick faisaient partie des 6 millions de juifs assassinés dans les camps de la mort nazie. Né à Vienne, il n'avait qu'un an et demi quand sa famille a fui l'Autriche pour l'Italie, embarquant pour Shanghai depuis le port de Trieste. À l'époque, Shanghai était sous occupation japonaise, mais Tokyo, pourtant allié de l'Allemagne nazie, y laissait entrer les étrangers sans visa, y compris quelques 20 000 juifs fuyant l'Europe. Tous ceux qui sont arrivés étaient des réfugiés sans argent, raconte Kurt Wick, ni logement, ni nourriture, rien. Nous étions à l'évidence très très pauvres, mais nous étions en sécurité. Les réfugiés peuvent compter sur l'aide d'une prospère communauté juive déjà installée depuis la fin du XIXe siècle dans les concessions étrangères. Et à partir de 1943, sous pression allemande, les Japonais obligent les juifs d'origine germanique à se regrouper dans un quartier populaire du nord de la ville. Mais ils ignorent la demande des nazis d'appliquer aussi la solution finale dans leur zone d'occupation. C'est donc dans ce que j'appellerais ce ghetto que s'est ouvert en 2007 le musée des réfugiés juifs de Shanghai dans une ancienne synagogue. Le musée a rouvert ses portes le mois dernier après une rénovation qui a triplé sa superficie. Les autorités cherchent à l'évidence à donner davantage de visibilité à l'histoire de la survie des juifs de Shanghai. Le musée, financé par l'État, souligne l'entente entre les communautés juives et chinoises, confrontées à un même ennemi, l'axe Berlin-Tokyo, et à l'absence d'antisémitisme dans toute l'histoire de la Chine. Il existait même une relation spéciale entre Shanghai et les juifs, avant même l'arrivée des réfugiés. Elle se poursuit aujourd'hui, assure le conservateur du musée, M. Chen Jian. Après la guerre, la quasi-totalité de la communauté juive de Shanghai quitte la ville avant l'arrivée au pouvoir du régime communiste en 1949. Beaucoup gagneront l'État d'Israël, fondé un an plus tôt. M. Kurt Wick, lui, se retrouve au Royaume-Uni. Ce pan de l'histoire sombre dans l'oubli rappelle le rabbin Shalom Greenberg, co-directeur du centre juif de Shanghai. L'histoire dont on parlait à l'époque était celle de ceux qui n'avaient pas survécu de leur sort terrible avec ce qui s'était passé en Europe. L'histoire des survivants, de manière générale, n'était pas évoquée, a-t-il expliqué. La capitale économique chinoise compte aujourd'hui une communauté juive forte de quelques 2000 personnes. C'est l'un des rares endroits du monde où l'on n'a pas peur quand on entend quelqu'un dire dans la rue « c'est un juif dans la langue locale », témoigne le rabbin. Installée à Shanghai depuis plus de 20 ans, cette terre n'a en fait jamais connu l'antisémitisme. Alors, loin de là, la petite communauté juive du Guatemala maintenant est d'installation relativement récente. La plupart des juifs de ce pays d'Amérique centrale, situé au nord du Mexique et qui compte quelques 17 millions d'habitants, sont arrivés au milieu du 19e siècle. Nombre d'entre eux, d'ailleurs, étaient des mahans ou des crypto-juifs. Essentiellement de culture ashkénaze, ces juifs sont venus d'Allemagne et d'Europe de l'Est. Les premières familles juives débarquées au Guatemala venaient des villes de Kempen et de Posen en Prusse. En réalité, transitant par Cuba, ils ne comptaient pas rester au Guatemala car leur objectif ultime était les États-Unis. Mais n'obtenant pas de visa, nombre d'entre eux finirent par se lasser et décidèrent de demeurer sur place. Ils seront rejoints par la suite par des juifs séfarades, essentiellement des Turcs. Malgré des mesures gouvernementales visant à limiter l'arrivée des juifs dans le pays dans les années 1930, la communauté juive s'est peu à peu organisée. Il a fallu cependant attendre 1981 pour voir émerger officiellement une Comunidad Judía Guatemala. De nos jours, compte tenu de la situation économique préoccupante du pays, des juifs guatémaltèques ont choisi d'aller vivre aux États-Unis, au Mexique, au Panama, au Costa Rica et bien sûr en Israël. En 2000, environ 1000 Juifs vivaient au Guatemala, pour l'essentiel dans la capitale, Guatemala City. 60% sont ashkénazes, 40% séfarades. La plupart des grandes organisations juives et sionistes sont représentées, le KKL, l'Aviso, le Bnei Brit, le Kerenei Essot, le Maccabi. Il y a une école juive, Tarbout, un jardin d'enfants, un club sportif et une union des étudiants juifs du Guatemala. Certains magasins proposent même des rayons cachers. La capitale compte 3 synagogues, la plus ancienne Magen David, Sharei Binyamin et une synagogue Chabad. Il existe également une petite communauté réformée. En 2008, un incident a opposé un groupe de 230 juifs orthodoxes appartenant au mouvement Lev Tahor et Toira Jezet, dont 110 enfants venus des États-Unis, de Grande-Bretagne, du Canada et d'Israël, à des Indiens mayas. Sans crier gare, ces juifs portant redingotes et chapeaux noirs, malgré la chaleur parfois étouffante, et dont les femmes revêtent des tenues très proches du tchador musulman, se sont installés à San Juan la Laguna, sur les bords du lac Atitlan, à 150 km de la capitale. Face aux frictions qui se sont multipliées, cette communauté, qui n'est pas affiliée à la Comunitat Judía, a préféré donc rebrousser chemin. Dans un tout autre domaine, on note qu'en décembre 2016, sous l'impulsion du père Patrick Desbois, un premier musée de la Shoah d'Amérique centrale a été inauguré. Les relations du Guatemala avec Israël sont excellentes et remontent à la veille de la création de l'État juif. En 1947, lors du fameux vote de partage aux Nations Unies, le représentant du Guatemala, le docteur Jorge Garcia Granado, réussit à convaincre les pays d'Amérique latine de voter en faveur du plan. Cela permit à Israël de voir le jour. Pour l'actuel président de la Knesset, Yuli Edelstein, les relations entre Israël et le Guatemala sont profondes et historiques. En Israël, d'ailleurs, plusieurs villes ont donné à des rues le nom de Guatemala. De son côté, le Guatemala a décidé de donner le nom de Jérusalem à plusieurs artères dans les principales villes du pays. Et dans la capitale même, une énorme Magen David dorée trône littéralement sur la place d'Israël au début du boulevard de Jérusalem. En décembre 2013, le président Otto Pérez Molina accomplit une visite d'État en Israël et en 2015, son successeur Jimmy Morales a choisi Israël pour sa première visite à l'étranger. La coopération entre les deux pays est très étroite, notamment dans les domaines du développement, de l'agriculture, du commerce, de la science, des questions militaires et de sécurité. En juin 2018, lors de la tragédie du réveil d'un volcan qui fit 62 morts au Guatemala, Israël, outre une aide financière, a envoyé sur place ses équipes de secours Israël. Enfin, last but not least, en attendant la réalisation de la promesse des dirigeants du Kosovo, le Guatemala est le deuxième pays, après les États-Unis, à avoir le 24 décembre 2017 reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël. Le 16 mai 2018, il y a même installé son ambassade et cette décision a été réaffirmée le 14 janvier 2020 par le nouveau président du pays, Alejandro Giammattei, qui a même précisé lors d'une rencontre avec le ministre israélien des sciences, de la technologie et de l'espace, Ophir Akounis, que son pays considère le Hezbollah comme un mouvement terroriste.
Yeah.
C'était bien sûr Boa Charabi avec Atli Laila. Direction à présent une île de l'Est de la Méditerranée qui vit un drame depuis 1974. Je veux bien sûr parler de la République de Chypre. En effet, cette année-là, dans le cadre d'une opération dénommée Attila, l'armée turque a envahi et occupé la partie nord du pays. En 1983, une République turque de Chypre a été proclamée. Elle n'est à ce jour reconnue que par la Turquie. Parallèlement, 200 000 Chypriotes grecs ont quitté le nord, forcés à l'exode, tandis que des milliers de Chypriotes turcs étaient obligés par leur chef de quitter le sud pour le nord de l'île. Enfin, depuis cette occupation, 93 000 colons turcs se sont installés dans la République turque de Chypre. C'est pourtant dans cette île déchirée que vit une petite communauté juive dynamique, environ 400 familles, qui, grâce notamment à l'action du mouvement Lubavitch Chabad et d'un rabbin arrivé en 2003, connaît un incontestable renouveau. Il convient de ne pas oublier que pour le monde juif, comme pour l'État d'Israël d'ailleurs, Chypre demeure dans les mémoires comme un lieu de misère, une prison à ciel ouvert. En effet, dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, environ 70 000 juifs embarquent sur 65 bateaux en direction de la Palestine. La moitié d'entre eux vient des camps de personnes déplacées mis sur pied par les Alliés en Allemagne. L'autre moitié vient de pays d'Europe de l'Est où sévit un antisémitisme persistant. La Palestine est alors sous mandat britannique, reçu de la Société des Nations, ancêtre de l'ONU. Sous la pression des dirigeants arabes, les Anglais ont érigé un livre blanc en 1939 qui limite de manière drastique l'entrée des Juifs en Palestine. Et dès leur arrivée à Haïfa, les clandestins juifs qui se croyaient enfin aux portes du paradis de la terre promise sont immédiatement entassés dans les navires de guerre britanniques et débarqués à 300 km de là sur l'île de Chypre. Entre 1946 et 1948, ce sont quelque 52 000 juifs qui seront internés derrière une double rangée de barbelés de plus de 4 mètres de hauteur, certains pendant des mois, d'autres pendant des années. Promiscuité, aucun confort, pas d'électricité, nourriture insuffisante et maladie. Il faudra attendre la proclamation de l'indépendance d'Israël et le départ des Anglais pour que les camps d'internement de Juifs de Chypre ferment leurs portes et ce sera en 1949. La présence de Juifs à Chypre est mentionnée dès la plus haute antiquité. Le prophète Isaïe et plus tard Ézéchiel évoquent Kittim, Chypre, dans leurs écrits. Sous Jean Hyrcan, Flavius Joseph, dans ses antiquités, évoque une présence juive nombreuse dans l'île. On sait aussi que la petite fille d'Hérode, Alexandra, épousa un juif chypriote. Quant à saint Paul, il s'en rendit à Chypre en compagnie d'un juif chypriote répondant au nom de Barnabé. Et plus tard, c'est le célèbre voyageur juif Benjamin de Tudela qui signale la présence de communautés juives à Famagouste, à Nicosie, à Limassol et à Paphos. Il note également que des Karaïtes sont très actifs sur l'île. Malgré quelques frictions avec l'Église chrétienne qui interdit depuis le Moyen-Âge à ses fidèles d'avoir recours aux services de médecins juifs pourtant réputés, les relations entre juifs et chrétiens sont cordiales. Les choses ont malheureusement s'aggraver au XIVe siècle quand l'archevêque del Conte impose aux Juifs un signe distinctif infamant qui sera aboli 20 ans plus tard par le roi Pierre Ier qui fera des Juifs des citoyens à part entière. Hélas, à la mort de ce souverain éclairé, les maisons des Juifs chypriotes seront pillées. Et au XVIe siècle, lorsque Chypre tombe sous la coupe de Venise, c'est un juif chypriote qui négocie en 1573 le traité de paix entre Venise et la Turquie. Après l'avènement de l'État d'Israël, on ne compte plus qu'une trentaine de juifs à Chypre et au fil des ans, la communauté va s'enrichir de nouvelles âmes venant de Grande-Bretagne, d'Union soviétique et même d'Israël. Ils sont 250 en 2004, 110 à Limassol, 80 à Larnaca, 50 à Nicosie et quelques familles dans la partie turque de l'île, à Famagouste et à Kerinia. Avec la venue d'un rabbin Chabad, une synagogue a ouvert ses portes ainsi qu'un jardin d'enfants, une yeshiva et un bain rituel qui porte le nom de Mei Menachem, les eaux de Menachem. La nourriture cachère est importée d'Israël, un cimetière juif a même été bâti. On y trouve également une vingtaine de tombes et enfin une association charitable Kindness in Cyprus collecte de la nourriture pour les nécessiteux et visite les malades dans les hôpitaux. En 2018, un nouveau musée juif a ouvert ses portes dans la ville de Larnaca grâce à l'action du rabbin Arié Zev Raskin et de la directrice d'une fondation américaine du patrimoine juif, Sybil Silver. À cette occasion, une centaine de sifrei Torah qui avaient été dérobés par les nazis puis récupérés par l'armée soviétique lors de la Seconde Guerre mondiale ont été exposés et en 2021, entre habitants fixes et visiteurs saisonniers, on compte près de 4000 juifs à Chypre, une véritable renaissance.
Baruch ata Adonai,
Baruch ata Adonai,
Baruch Abba Yerushalayim,
Baruch
ata Adonai. Baruch Rabba Yerushalayim,
Baruch Rabba Yerushalayim. Thank you.
Bible to the Quran. Revelation in Jerusalem, Shalom. Salam Aleikum. You can see Christians, Jews and Muslims living together and praying, Amen. Let's give thanks and praises. Baruch Ata Adonai. Baruch Abba Yerushalayim. Baruch Ata Adonai. Baruch Abba Yerushalayim. Jerusalem, here I am. Jerusalem, je t'aime. Jerusalem, here I am. Jerusalem, je t'aime. Israel Yakirati, ani oevota, Israel Yakirati. Israel Yakirati. Israel Yakirati.
C'était Alpha Blondie avec sa chanson sur Jérusalem. Alors je voudrais maintenant vous raconter l'histoire de ces descendants de Mahan devenus célèbres. Le crypto-judaïsme commença 3 siècles avant l'expulsion des Juifs d'Espagne et déjà c'est sous l'islam suite aux invasions des tribus berbères islamisées et fanatiques que les Almohades imposèrent au XIIe siècle en Afrique du Nord et en Espagne aux Juifs le choix entre la conversion à l'islam ou la mort. Ces crypto-juifs du XIIe siècle, qu'on appellera plus tard les Mahan, se mirent à pratiquer sincèrement l'islam, alors que les autres, la majorité, continuèrent secrètement à pratiquer le judaïsme avant d'y revenir ouvertement après la chute de la dynastie almohade. Le plus célèbre des théologiens crypto-juifs à cette époque, converti en apparence à l'islam, mais revenu très vite au judaïsme en s'exilant à Fès au Maroc, est Maïmonide. Il est l'un des plus célèbres talmudistes et médecins, auteur du Mishneh Torah, l'un des plus importants codes de loi juive. Il reste une figure majeure du judaïsme et influença le monde musulman et chrétien, notamment Thomas d'Aquin qui le surnomma l'aigle de la synagogue. Au XVe siècle, avec la reconquête chrétienne en Espagne et la chute du dernier État musulman à Grenade dans la péninsule ibérique, la cruelle Inquisition fut impitoyable avec les crypto-juifs accusés de continuer secrètement à judaïser. Alors commençant par la Sainte Thérèse d'Avila, cependant certains descendants des juifs convertis de gré ou de force épousèrent sincèrement le christianisme. L'une des plus célèbres est donc Sainte Thérèse d'Avila. Son grand-père était un commerçant juif de Tolède converti au christianisme. Elle fut élevée dans un couvent et c'est sous son impulsion que les chemins de la perfection de l'ordre des carmélites aboutira à sa béatification en 1614 et à sa canonisation par Rome. De nombreux Mahan et leurs descendants s'illustrèrent dans les siècles qui suivirent et voici l'histoire de certains d'entre eux parmi les plus célèbres et commençons par Cervantes. En Espagne, Cervantes, l'auteur de Don Quichotte, descendrait de juifs convertis dans les deux branches de sa famille et pour certains historiens, Don Quichotte serait le roman d'un juif masqué où on retrouverait dans ses mésaventures la métaphore du chevalier errant propre au destin de certains Mahan. Parlons de Montaigne maintenant. En France, le célèbre écrivain Montaigne, auteur des fameux essais, avait une ascendance juive marane par sa mère, Antoinette Lopez de Villanueva, fille de Pierre Lopez, converti au christianisme et descendant direct de Pablo Lopez de Villanueva, brûlé vif par l'Inquisition espagnole en 1491. Dans les écrits de Michel de Montaigne transparaissent ses origines et ses convictions profondes, comme quand il affirme que Dieu est le seul qui est s'éloignant ainsi de la conception chrétienne de Trinité et se rapprochant de l'unité divine propre au judaïsme. De même, il combattra toute sa vie l'intolérance sous toutes ses formes et sa conception de la vision du monde s'accorderait mieux avec la conception pragmatique de la religion juive. Et lors de ses voyages en Italie en 1580, juste après la publication de ses fameux essais, il visita plusieurs synagogues. Il décrit avec beaucoup de bienveillance leurs offices religieux. C'est avec beaucoup de courage pour l'époque qu'il décrit le judaïsme dans l'essai de la gloire comme l'unique religion ayant valeur de vérité. Donna Grazianassi dans l'Empire ottoman. Donna Grazianassi, issue d'une famille de Marane, dirigeait la puissante banque Mendez dans plusieurs villes d'Europe. Après avoir fréquenté la cour de Charles Quint, elle revint au judaïsme et fut obligée de fuir l'Europe où son organisation avait aidé de nombreux Maranes. Elle trouvera donc refuge à Istanbul où Soliman le Magnifique l'accueillit et la protégea. Avec son aide, elle réussit à imposer le boycott du port d'Ancône sur l'Adriatique qui dépendait des États pontificaux. En cela, elle protège les Maranes persécutés en Italie. Et son neveu Joseph Nassi, futur duc de Naxos et seigneur de Tibériade, était très proche des sultans ottomans. Il était chargé de leur politique étrangère et soutint la révolte des Pays-Bas contre l'Espagne. C'est lui d'ailleurs qui négocia la paix avec la Pologne et influença même l'élection du roi de Pologne. Il amena l'Empire ottoman à déclarer la guerre à l'État de Venise, qui vaincu dut céder l'île de Chypre à la Turquie en 1570. Auparavant, en 1561, Joseph Nassi avait été nommé seigneur de Tibériade. Il fut considéré comme un précurseur du sionisme en favorisant la réinstallation de Juifs à Tibériade et en reconstruisant cette ville. Une autre ville accueillit de très nombreux Maranes. Il s'agit de Salonique, qui fut surnommée la Jérusalem des Balkans. À la fin du XVIe siècle, la moitié de la population était d'ailleurs juive. Son rayonnement culturel était immense grâce à ses nombreux ateliers d'imprimerie où sont édités les livres de décision rabbinique, les responsas en langue hébraïque, mais et aussi de nombreuses publications en judéo-espagnol. Ces yeshivot attirèrent les étudiants juifs de l'Empire ottoman et bien au-delà. Parmi ses nombreux célèbres chefs spirituels, Rabbi Moshe Alkabetz et Rabbi Yosef Karo, auteurs du Shulchan Aruch, le code de la loi juive compilé. La puissance économique de la communauté juive était si grande que le port et les commerces ne fonctionnaient pas le Shabbat. Et pour l'anecdote, le sultan décréta que ses soldats janissaires devaient porter seulement des lainages fabriqués par les Juifs de Salonique. Le faux Messie, c'est dans ce contexte qu'un événement particulier arriva. Un jeune et brillant rabbin, Sabbatai Tzvi, se déclara Messie en 1648. Ce n'était pas d'ailleurs la première fois qu'un tel événement se produisit. Expulsé de Smyrne, il arriva à Salonique où de nombreux juifs, troublés comme dans beaucoup d'autres villes, croient voir en lui le sauveur attendu. Sommé par le sultan de démontrer ses pouvoirs surnaturels, il est emprisonné à Istanbul. Et ne pouvant démontrer ses pouvoirs, il se convertit à l'islam pour avoir la vie sauve, entraînant avec lui plusieurs milliers de ses adeptes qui se convertissent aussi à l'islam, créant ainsi une nouvelle forme de maranisme, un mélange d'islam et de judaïsme. Cette secte de sabbatéens désignée en turc sous le nom de Domnez et juifs islamisés est toujours présente aujourd'hui en Turquie. Elle regroupe plusieurs milliers de personnes reconnues et désignées comme descendants de ces convertis, ils occupèrent depuis d'importantes fonctions dans différents domaines. Plus près de chez nous, en Hollande, Amsterdam est surnommée la Nouvelle Jérusalem depuis l'installation de nombreux Maranes revenus au judaïsme. De nombreux érudits s'y établissent comme Manassé ben Israël, rabbin kabbaliste, écrivain, imprimeur et éditeur portugais. Également diplomate, il réussit à convaincre Cromwell de permettre le retour des Juifs en Angleterre qui en furent chassés en 1290, 350 ans plus tôt. Plusieurs de ses livres sont devenus célèbres, comme Esperanza de Israel, qui porte sur la question du Messie. Cet ouvrage connut un grand succès en Angleterre auprès des protestants anglais qui se considéraient comme le second Israël. Mais oui. Et Baruch Spinoza, le célèbre philosophe dont la contribution à l'histoire de la civilisation moderne en tant que défenseur d'une république républicaine et de son traité théologico-politique demeure le livre fondateur de l'esprit de liberté moderne. Il fit progresser la montée universelle des Lumières. Il fut cependant exclu du judaïsme par un Rerem, car sa prééminence de la raison sur la religion jouait un rôle néfaste auprès de l'intelligentsia juive. En Angleterre, la communauté juive prospéra. Au XIXe siècle, citons Benjamin Disraeli, descendant de Maran, né dans une famille juive en 1804, converti enfant par son père qui était en conflit avec sa synagogue. Il fut élu député en 1837, puis ministre. Il développa une grande amitié avec la reine Victoria, dont il devint le premier ministre et qui le fera en 1876, comte de Beaconsfield. Il ne renia jamais ses origines juives et il réforma à la Chambre des communes l'obligation pour un nouveau député d'origine juive de prêter serment d'allégeance à la véritable foi chrétienne. Ce qui permit d'ailleurs par la suite à plusieurs juifs de faire leur entrée au Parlement, dont Lord Rothschild. La légende rapporte que sur son lit de mort, Disraeli aurait récité le schéma Israël. Citons aussi Lord Moses Montefiore, célèbre philanthrope, lui aussi ancien marane et d'origine livournaise, comme Disraeli, ainsi que David Ricardo, célèbre économiste très influent, aux côtés de Thomas Malthus. Revenons en France, où les Juifs étaient officiellement interdits de séjour depuis leur expulsion par Philippe le Bel en 1306. Mais de nombreux nouveaux chrétiens trouvaient refuge à Bordeaux, où on les désignait comme marchands portugais. Au XVIIIe siècle, Jacob Rodrigue Pereyr est le précurseur de l'éducation des sourds et de l'orthophonie et interprète officiel du roi Louis XV. Au XIXe siècle, Jacob Abraham Camille Pissarro, dit Camille Pissarro, le célèbre peintre, s'impose comme l'un des pères de l'impressionnisme. Né aux Antilles en 1830 et décédé à Paris en 1903, il était le fils d'un juif d'origine portugaise né à Bordeaux. Et aussi les frères Émile et Henri Pereyr, ingénieurs centraliens fondateurs des chemins de fer du Nord et du Midi, ainsi que Isaac et Eugène Pereyr, députés des Pyrénées et du Tarn. Au XXe siècle, un autre descendant de Marane portugais installé à Bordeaux se distingue, Pierre Mendès France, le plus jeune avocat de France à 21 ans. Il devient ministre du gouvernement de Léon Blum en 1936, combattant dans les forces aériennes françaises libres pendant la Seconde Guerre mondiale. Élu président du Conseil en 1954, il met fin à la guerre d'Indochine et accorde l'autonomie interne à la Tunisie qui aboutit à l'indépendance de ce pays. Bayonne fut l'autre ville qui accueillit les maranes juifs. Ils introduisirent le chocolat venu des Amériques, jusqu'alors inconnu en France. Cette communauté de nouveaux chrétiens revenus officiellement au judaïsme après la Révolution française en 1789 prospéra dans cette ville et au XXe siècle, l'un de ses plus illustres descendants est René Cassin qui, après avoir rejoint le général de Gaulle à Londres, fut le rédacteur de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et j'en terminerai par là, en Afrique du Nord, des dizaines de milliers de juifs espagnols arrivèrent dès le XVe siècle. Ils sont bien accueillis par les souverains locaux, ils apportaient leur dynamisme et leur savoir comme artisans, médecins et commerçants, faisant profiter de leur réseau marane partout dans le monde. De même, de très nombreux rabbins et érudits réfugiés d'Espagne, entre autres le Rav Ephraim Ankawa à Tlemcen, le Ribar à Alger et le rabbin Lumbroso à Tunis, redonnèrent vigueur au judaïsme local. Ils prirent la direction spirituelle, élaborèrent des takanot, des règlements et ouvrirent des yeshivot. Ce fut une ère nouvelle de régénération spirituelle du judaïsme après avoir été secouée jusque dans ses fondements par le fanatisme des almohades. Les communautés juives restèrent intactes sans s'assimiler jusqu'à l'arrivée de la France au XIXe siècle en Algérie et en Tunisie et au XXe siècle au Maroc. La dhimmitude fut abolie. Avec les écoles de l'Alliance, les juifs s'ouvrirent donc à la modernité. Boublitschki avec Giora Feinman à la clarinette. Parlons littérature israélienne à présent avec l'auteur Emouna Elon et son livre Une maison sur l'eau, paru aux éditions Albin Michel. Yoel Blum, célèbre auteur israélien, se rend à Amsterdam, sa ville natale, pour assurer la promotion de son nouveau roman, et ce en dépit de la promesse qu'il avait faite à sa mère de ne jamais y retourner. En visite au musée historique juif, il voit un film d'archives où apparaît sa mère tenant un bébé qu'il ne reconnaît pas. Qui peut bien être cet enfant et pourquoi sa mère, aujourd'hui morte, ne lui en a-t-elle jamais parlé ? Une maison sur l'eau remonte en fait le cours du passé et confronte le lecteur aux heures sombres d'Amsterdam au fil d'un poignant voyage dans le temps et la mémoire. Une réflexion inoubliable sur l'identité et les origines. Emouna Elon est une auteure journaliste de renom et une militante des droits des femmes. Issue d'une famille de rabbins et d'intellectuels, elle a grandi entre Jérusalem et New York. Elle enseigne le judaïsme, le chassidisme et la littérature hébraïque. Une maison sur l'eau est son premier roman. Traduit en français. Alors je vous rappelle que Eden Allen a été sélectionné pour représenter Israël à l'Eurovision en 2021. La jeune chanteuse est née en mai 2000 à Jérusalem. Elle est la première artiste d'origine éthiopienne à représenter Israël au concours international. Elle chantera lors de la demi-finale du concours de l'Eurovision à Rotterdam. Ce sera le 18 mai. Prochain. Si elle se classe parmi les 10 premiers, elle se produira à nouveau le 22 mai lors de la finale. Eden Allen s'est fait connaître du grand public en remportant en 2018 la version israélienne de X Factor. En 2020, elle remporte la 7e saison du télécrochet à Kochav Haba, plus connu à l'international sous le nom de Rising Star, et gagne le droit de représenter Israël à l'Eurovision 2020, événement qui sera annulé malheureusement à cause de la pandémie. La chanson israélienne sélectionnée pour l'édition 2021 du concours de l'Eurovision est « Set me free, libère-moi ». Enfin, j'en terminerai avec Roni Alter. Cette jeune artiste originaire de Tel Aviv dégage une sensibilité tout à fait unique. Elle est auteure, compositrice, musicienne et interprète. Fille d'une actrice et du compositeur et réalisateur, tous deux célèbres en Israël, Roni Alter grandit à Herzliya. Elle apprend d'abord la musique classique, puis le jazz. Ses mélodies sont riches, son grain de voix est unique et aérien, poétique et mélancolique. Elle propose un univers inspirant et inspiré, un voyage qui vous transporte dès les premières notes. Dans les années 2000, elle fait des duos avec le chanteur israélien Arik Einstein. Elle devient ensuite la chanteuse de Metropoline, un groupe d'électropop. En 2010, elle sort un premier album solo, puis décide en 2012 de s'installer à Paris où elle est parrainée par la chanteuse pop-folk Keren Ann. En 2014, elle enregistre un second album, Go Wild, dans lequel le musicien Avishai Cohen joue de la trompette. En 2019, elle est nominée aux Victoires de la musique pour son EP Roni Alter. En 2020, elle reprend avec Jean-Baptiste Soulard La Dame Brune, une chanson coécrite et interprétée par Georges Moustaki et Barbara en 1967. Et dans cette reprise, Roni Alter chante en hébreu et Jean-Baptiste Soulard en français. Et le résultat est tout à fait magique. Et voilà, c'est avec cette petite info donc que se termine cette émission découverte. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Je vous retrouverai bien sûr la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Je vous rappelle que cette émission est rediffusée le dimanche de 18 à 19 heures. Voilà, je vous souhaite de passer une très bonne semaine à l'écoute des programmes de Radio Judaïka, bien sûr. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter Guit Shabbos, Shabbat Shalom, à la semaine prochaine.
Découverte, découverte, Aviva Belef en votre compagnie, avec rien que de bonnes nouvelles en provenant d'Israël et du monde juif, mais pas seulement de bonnes nouvelles, également de la bonne musique et des invités.
Sur des airs de guitare, et puis tu bouges. nagé comme une reine encore ondule. Déjà mes pensées se bousculent comme la lumière. Il n'y a que toi qui m'éclaire tout là dans la voix, le chaud et le froid. Je t'ai dans la peau, baila, baila. Sois toi ma belle Andalouse, aussi belle que jalouse. Quand tu danses, le temps s'arrête. Je perds le nord, je perds la tête. Sois ma belle Espagnole, quand tu bouges tes épaules, je ne vois plus le monde autour. C'est peut-être ça l'amour. Oh yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh. Oh yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh. Oh yeah, yeah, yeah. Oh, oh.
Dos, tres.
C'est peut-être ça la
bonne.